musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Le Point Info Famille de Lille-Dieu propose des ateliers confiance en soi les deux week-ends, les 3 et 4 et 17 et 18 décembre. Bonjour Xavier Petit.
Bonjour.
Vous êtes accompagnant en rendre heureux et spécialiste en communication décalée et positive.
C'est cela.
Quel est votre parcours professionnel pour proposer ce type de conférence atelier sur la confiance en soi, car cela ne s'improvise pas tout de même?
Non, évidemment, il faut avoir déjà un petit peu marné dans le secteur. Alors, en l'occurrence, mon parcours à moi, je suis éducateur spécialisé de formation initiale. Donc, j'ai travaillé nombreuses années auprès de populations un peu en difficulté, diverses populations, des ados notamment, beaucoup d'ados et leurs familles, où le but, c'était, dans un premier temps, de redonner confiance aux ados, parfois à leurs familles également, et puis de remettre du lien, de la communication entre eux, puisque très souvent, les relations entre les ados et leurs parents sont un peu compliquées. Voilà, ça c'est ma formation initiale. Ensuite, je suis devenu chef de service, directeur d'une structure, et puis j'ai décidé, il y a quelques années, de m'orienter un petit peu, et en tout cas de m'ouvrir vers d'autres formes d'introspection de l'humain, et puis également de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer au quotidien les relations humaines. Donc d'abord, j'ai pris un peu de distance avec le personnage classique de l'être humain pour partir sur le clown, le personnage clown, mais pas n'importe quel, pas le clown cirque, pas le clown spectacle, celui du clown accompagnant, en tout cas qui s'appelle clown hospitalier. Donc je me suis formé en région parisienne, je suis venu en Vendée en 2010, donc je voulais poursuivre mes interventions et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'association qui le faisait. Donc avant de créer moi-même mon association, je suis parti au Québec où je suis allé me former. Là, ça a été une véritable découverte puisque j'ai pu ramener plein d'outils de nos amis québécois, c'est un peu en avance, c'est toute la relation humaine.
C'est un bon exemple.
À force de côtoyer nos amis, ça se travaille et on les aime, quoi. Donc voilà, c'était une première expérience absolument phénoménale. C'était un vrai déclic pour me faire comprendre, qui m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on pouvait vraiment évoluer dans la relation humaine et permettre à des gens qui sont en situation un peu compliquée de pouvoir aller mieux. Et dans un premier temps, évidemment, c'est de reprendre confiance en soi. Puisque pour aller bien ou pour aller mieux, il faut d'abord reprendre confiance en ses capacités. Et là, j'ai poursuivi un petit peu mes recherches et mes travaux en travaillant notamment sur les neurosciences. Donc je suis un fondu des neurosciences et de la neuropsychologie. Je me forme moi-même et puis je tous les articles des livres. Et puis également autour des travaux de Carl Rogers, qui bien sûr est une référence pour nous autres accompagnants, puisque Carl Rogers a été un des éminents spécialistes notamment de l'approche centrée sur la personne, ce qu'on appelle l'ACP, et qui a permis de dire que même des gens en situation de grande souffrance ou de grand handicap possédaient des talents au fond d'eux. Voilà, et puis donc parallèlement, je me suis formé à la Haute École de Coaching pour devenir coach de vie, donc life coaching, pour pouvoir permettre d'avoir un diplôme et une reconnaissance officielle pour accompagner des gens. Donc concrètement, actuellement, je suis accompagnant en RH, rendre heureux, dans le cadre de mon cabinet, hein, j'ai un cabinet de coaching à Saint-Jean-de-Mont, et puis je dirige l'association donc Clown et Vie, les clowns dans les structures de soins. Et c'est là où j'interviens, notamment autour de la communication positive et décalée.
La neuroscience fonctionne bien avec la confiance en soi.
Ah, bien sûr.
C'est un mélange.
C'est plus qu'un mélange, c'est-à-dire que désormais, dans des outils concrets qui sont utilisables parce que les neurosciences nous ont permis de comprendre que ces outils étaient de véritables outils qui allaient toucher, qui allaient impacter l'être humain exactement là où il en avait besoin et non pas de partir dans des grands délires ou dans des grandes philosophies ou dans des grandes stratégies, je sais pas quoi. Donc désormais, on en est vraiment très très proche de la réalité concrète. On va travailler sur les intelligences multiples, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que quelques intelligences, mais qu'il y a actuellement 10 intelligences multiples chez l'être humain, et que n'importe qui en possède au moins une, mais plusieurs en général.
Qu'est-ce que l'intelligence multiple ?
Alors, c'est l'intelligence qui nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas être doués partout.
Hélas.
Par exemple, concerne les gens qui travaillent dans les radios. On va de suite, très rapidement, lors de tests, s'apercevoir que ce sont des gens qui sont sur des intelligences dites musicales. Donc la notion des sons, la notion de l'ouverture culturelle sur des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire vont provoquer des émotions plus importantes et donc je me sens bien dans cet élément-là. Pour quelqu'un qui travaille dans la santé, c'est très souvent, notamment pour les kinés, ça va être, les kinés, les gens qui travaillent autour du soin à l'autre, ça va être une intelligence kinétique, par exemple.
Mmh.
Voilà. Donc il y a différentes formes d'intelligence et tout le monde en possède au moins une, mais en général même plusieurs. On essaie de les cibler pour se rendre compte qu'on ne peut pas être bon partout, que l'être humain possède encore également cette formidable cette formidable possibilité de faire des erreurs.
On n'est pas des robots.
Non, et c'est exactement ça. Et les neurosciences permettent de bien comprendre comment est-ce qu'un être humain doit, au quotidien, accepter l'idée qu'il fait des erreurs et que l'erreur fait partie de la condition humaine et que si on ne fait pas d'erreur, si nous ne faisons pas d'erreur, eh bien nous sommes des robots. Et lorsque nous sommes des robots, eh bien nous sommes sur une autre mécanique avec quelque chose de programmé. Or l'être humain ne programme pas, il vit l'instant présent et il essaie d'en profiter pour vivre l'instant présent dans le moment où il le vit.
Les 3 et 4 décembre, le week-end, c'est plutôt un week-end généraliste sur la confiance en soi, non ?
Ce premier week-end-là, c'est de l'approche.
Où en suis-je avec ma confiance ?
Oui, c'est ça. Voilà, c'est où en suis-je. Donc, on va balayer différents domaines. Donc, le premier, c'est mesurer son niveau de confiance en soi. Donc, à travers des tests, à travers des moments où on va parler de soi, de ses craintes, de ses atouts, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, de ses passions et différentes choses. On va parler de soi et on va mesurer où on en est, chacun. Là, c'est plutôt de l'individuel, en effet, son niveau de confiance en soi. Et puis ensuite, on va tenter d'apprendre à mieux se connaître, mais en général, ça marche plutôt bien, à travers des jeux de relations intrapersonnelles. Donc là, on communique avec soi-même. Comment communiquer avec toi-même ? C'est faire le point, c'est où j'en suis vraiment, c'est-à-dire que je m'arrête sur la façon dont je fonctionne au quotidien.
Mmh.
Moi-même, avec ma famille, avec mon réseau d'amis, avec mon réseau professionnel, et comment est-ce que je suis avec moi ? Quel respect j'accorde à ma personne ?
Et voir s'il y a des choses à changer ou c'est dans un deuxième temps ?
C'est dans le deuxième temps, deuxième temps, c'est après. C'est-à-dire que, alors immédiatement, lorsqu'on se rend compte qu'évidemment, je ne suis pas, par exemple, bienveillant à mon égard, que je n'adopte pas les attitudes de bienveillance qu'il me faut, la contrepartie, c'est de se dire immédiatement, oui, oula, il est temps que ça change. Pour prendre un exemple concret, c'est la personne qui prend du poids qui va dire, le fait de prendre du poids ne me convient pas, et donc il faut que je maigrisse et qu'il faut que je change mes méthodes d'alimentation.
En premier lieu, pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer. Est-ce que c'est la base ?
Oui, non, c'est une évidence, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. S'aimer, se respecter et être bienveillant à son égard.
Même si on fait des erreurs.
Mais surtout si on fait des erreurs. Surtout si on fait des erreurs, c'est pas même. Même ce serait le plus, c'est que surtout on fait des erreurs, il faut accepter l'idée qu'on fasse des erreurs. Et que ces erreurs-là, si on les répète tous les jours, peut-être que ça devient problématique. Mais si en revanche, on en prend conscience dans un premier temps et qu'on se dit que, je vais tenter de les améliorer. Et c'est ça le travail sur soi. C'est-à-dire que, il y a quelques trucs qui me gênent profondément. J'aurais envie de changer ça chez moi. Comment je vais faire? Quels outils je vais utiliser pour me permettre d'améliorer, ce secteur-là? Sachant que je ne pourrais pas être le meilleur partout ou bon partout ou quoi que ce soit, je pourrais simplement avoir envie de gommer un peu mes défauts et puis avoir envie de perfectionner ce quoi je suis plutôt talentueux.
Et quels sont les outils ?
Alors, les outils que moi, en tout cas, parce qu'il y a des outils, il y en a plein, ceux que je maîtrise un peu mieux et que donc je suis en capacité de pouvoir mettre en place
et mettre en avant
auprès des gens que j'accompagne, ils sont de 3 ordres pour ce week-end-là. C'est d'un premier temps l'énéagramme.
C'est un test ?
Alors non.
Pas du tout.
Même s'il y a des tests Enneagram, ensuite, c'est les gens vont apprendre à se découvrir par cet outil qui s'appelle l'Enneagram, qui est un formidable outil assez puissant qui permet de se révéler et de se déterminer qui on est.
C'est quoi alors l'Enneagram ?
Alors l'Enneagram, c'est un outil de motivation et de connaissance de soi, issu des États-Unis, qui est basé sur 9 chiffres et qui va permettre de se retrouver dans un des chiffres, un ou plusieurs chiffres, qui vont correspondre, qui vont devenir notre profil très important, celui qui va caractériser notre état d'esprit, notre squelette et qui je suis profondément.
Il y a des tests comme ça sur Internet. Est-ce que valable ou pas ?
Oui, il y en a, Certains sont très sérieux et d'autres sont malheureusement beaucoup moins sérieux. Attention.
C'est pour ça que je te pose la question.
Ouais, non. Il y a vraiment des structures très sérieuses au niveau d'Enneagramme qui travaillent avec des gens qui sont très compétents, qui ont été formés. Mais attention, on voit de tout et n'importe quoi notamment sur Internet, avec des choses complètement fausses, voire même qui peuvent être dangereuses pour des gens qui prennent ça au pied de la lettre.
J'ai testé, je suis en type 5, ça veut dire quoi ?
Ah ! ça veut dire plein de choses. On va pas révéler les types maintenant, parce que d'abord se tester par internet et découvrir qu'on est type 5,
c'est
un peu dangereux d'être aussi catégorique.
Non, mais c'était pour m'amuser, surtout voir quel résultat j'avais.
Il est bon, c'est bon signe. Ouais, tout va bien.
Ça se passe plutôt pas trop mal.
Tout va bien, il n'y a rien à changer. Enfin, s'il y a quelques trucs à changer, mais tout va bien, en règle générale.
Mesurer son impact sur la communication avec l'autre, c'est aussi très important.
Oui. C'est un deuxième aspect, c'est la communication. C'est la communication, donc tout à l'heure on parlait d'une communication intrapersonnelle, donc comment je communique avec moi, mais évidemment, si je me mets que communiquer avec moi, c'est que j'ai quelques soucis. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble, et en l'occurrence, la communication avec l'autre est importante. Et pourquoi est-ce qu'on parle de confiance en soi ? Parce que on sait plus ou moins où on en est, quoique parfois on ne sait pas trop, mais c'est très souvent l'autre qui nous renvoie qui on est, en disant je te sens plutôt à l'aise ou je te sens pas à l'aise.
Ou je te sens stressé, ou peureux. Ou je te sens stressé ou peureux.
Exactement, c'est ça, je te sens stressé, peureux, craintif, au contraire, je te sens très bien, je te sens très à l'aise. Alors parfois, on peut sembler très à l'aise et puis ça cache au fond de soi un manque de confiance.
Ça arrive souvent chez des personnes.
Comment ?
C'est humain aussi, ça arrive souvent chez des personnes, c'est humain.
Oui, bien sûr. Ah, peut-être que là, tu as des noms à citer, des gens qu'on connaît. Oui, tu en connais, dis-moi.
Non, plus du tout.
Non, l'idée, c'est dans cette communication à l'autre, c'est de se situer, de voir où j'en suis, et puis après d'acquérir des techniques qui vont me permettre en effet de mieux communiquer avec l'autre et de me sentir un peu plus à l'aise.
Et quelles sont ces techniques ? Je suis curieux.
Alors, ces techniques notamment, c'est la communication en public, c'est...
Parler en public par exemple. C'est un bon exercice.
Parler en public, voilà. Alors un public au-delà de 3 ou 4 personnes, c'est un public.
On est bien d'accord.
On est d'accord.
Pas non plus des hommes politiques.
Non, pas encore.
Peut-être un jour.
Peut-être. En l'occurrence, cette capacité à pouvoir être à l'aise, à communiquer en public, et là, évidemment, il y a des techniques bien précises qui sont issues de divers domaines, mais également du théâtre, par exemple, puisqu'on sait que les acteurs doivent, on analyse comment un comédien va être un bon comédien dans sa capacité, dans sa prestance générale à communiquer face à du public et en toutes circonstances, c'est-à-dire même en étant surpris par l'autre dans la communication.
Dialoguer avec les gestes, c'est très important.
Dialoguer avec ?
Avec les gestes, avec les mains. Ça aide aussi.
Bien sûr, mais c'est...
Est-ce que c'est une technique ?
C'est pas l'élément numéro 1. L'élément en communication publique, oui, c'est un des éléments, mais c'est pas le plus important.
Quel est le plus important ?
Le plus important, c'est le regard.
Le regard ?
Le regard. Alors, globalement, le visage, mais le regard est l'élément le plus important, puisque c'est celui qui va nous permettre d'être convaincant ou pas. C'est-à-dire d'exprimer réellement le regard. On ne peut pas tricher avec son regard. On ne peut pas tricher. Les mains, on peut tricher. Quelqu'un qui arrive à très bien maîtriser sa communication manuelle, sa communication gestuelle, notamment au niveau des bras et des mains, il peut arriver à tricher, il peut arriver à avoir des gestes d'ouverture, alors que c'est quelqu'un qui, en fait, est très fermé, par exemple. Le regard, en revanche, on ne peut pas tricher avec. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, il y a un nouveau courant qui est en train de se développer, qui s'appelle la synergologie.
Oula !
Oui, c'est un terme un peu barbare.
On est bien d'accord.
Synergologie qui permet, qui vient des États-Unis, mais qui va permettre à certaines personnes, en étudiant l'autre, de savoir s'il dit des choses vraies ou si c'est des mensonges. Alors c'est vraiment, faut être spécialiste, faut être très prêt. Mais on a vu, il y avait eu un article, enfin pas un article, plusieurs articles qui avaient été postés suite à l'interview de Jérôme Cahuzac. Mm-hmm. La première fois qu'il avait été interviewé, qu'il avait dit qu'il n'avait pas de compte en Suisse, qu'il n'avait pas de machin et tout. Et immédiatement, des synergologues, donc des gens, des spécialistes, avaient dit ce monsieur ment. Voilà, et ils avaient décrypté notamment son regard, où il avait un regard fuyant, un regard qui baissait. Lorsqu'il y avait certains mots qui sortaient de sa bouche, eh bien le regard ne suivait plus l'intonation de la voix.
Et là, on peut dire si une personne ment ou si elle dit la vérité.
Voilà, alors quand on est grand spécialiste, alors je n'ai pas la prétention d'affirmer que je suis un grand spécialiste, mais on va travailler sur certaines attitudes qui vont faire qu'on va vraiment exprimer de vraies émotions profondes, authentiques, l'authenticité. Parce qu'évidemment, pour être confiant en soi, il faut être authentique. Si on triche, on ne peut pas être confiant.
À appréhender des outils de motivation dans la confiance en soi, il y a des outils vraiment bien spécifiques.
Alors, la motivation, oui, c'est-à-dire que comment est-ce que je suis motivé à quoi ? Sur quoi je suis motivé ? Si on me motive à ma place et que moi j'ai pas envie,
ça fonctionne pas.
À contre-courant potentiellement, et donc ça sera du jeu, ça sera pas d'authenticité. Et à un moment donné, je serai en décalage entre réellement ce que j'ai envie. La confiance en soi, elle est également liée à son envie. J'ai envie de, je souhaite.
Je vais réussir.
Au fond de moi. Ça veut dire aussi travailler sur ses passions. Ça veut dire aussi travailler sur. Voilà, il se passe ça dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je l'occulte ? Est-ce que j'ai envie de le vivre intensément ? Ou est-ce que. Je sais pas. J'attends que ça tombe des autres et je ne m'implique pas. Et voilà. Et chacun va réagir un peu différemment. Plus on va avoir connaissance de cela, plus on va être en capacité de pouvoir résoudre des problématiques liées à sa confiance en soi et à l'image que l'on donne également de soi auprès des autres.
La confiance en soi, c'est un monde très vaste. Il y a plein de pistes à explorer.
Oui, alors ce week-end, c'est qu'une approche. On pourra, les stages de confiance en soi peuvent durer pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec au fur et à mesure des étapes. Là, ce premier week-end, c'est vraiment une approche avec donc des outils de relations intrapersonnelles, de communication, d'énéagramme et d'arbre de vie également, qui est un outil qui fonctionne bien, qui est un outil plutôt sympathique, très ludique, dans lequel on parle un peu de soi sous forme du passé, du présent et des projections futures.
L'arbre de vie, ça sert à quoi ?
Eh ben, ça sert à planter son arbre pour faire en sorte qu'il puisse évoluer au mieux et devenir un arbre magnifique qui va resplendir tout au long de l'année.
Mais comment que ça se passe ? La personne dessine l'arbre ?
Ah, et je pense que Roland, il faudra venir participer à l'atelier pour venir le tester.
Dis-nous en plus quand même, Xavier.
Je peux en dire plus, en effet. Donc l'arbre, il est composé d'une racine, deux racines. Il est composé d'un tronc. Et il est composé de branches, voire même de feuilles.
Et comment que ça se passe concrètement ?
Bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Je rassure tout le monde, ça se passe bien.
Non mais quel est le but au final de cet arbre ?
Au final, comme je disais, c'est de travailler un peu sur son passé, qui s'est passé, quels ont été les éléments marquants de moi-même, mon présent actuel, ce que je vis, et ce à quoi j'aspire.
Et le passé dans la confiance en soi est très important.
Alors, il permet de comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si on sait la raison pour laquelle on est bloqué dans certains messages, dans certains passages de vie, parce que au niveau de la confiance en soi, parce qu'il s'est passé tel élément dans mon passé, on va potentiellement arriver à déceler la raison pour. Alors, ce ne sera pas dans ce week-end-là qu'on arrivera à le résoudre. Mais on sait que, par exemple, si... Alors, je prends un exemple concret. Si la confiance en moi est liée à un deuil, lorsque j'avais 11 ans ou 12 ans, d'une personne très proche qui est décédée, et que je n'ai pas vraiment fait encore le deuil, on va pouvoir se dire qu'une des solutions, ça sera ensuite d'aller voir un spécialiste qui va travailler sous cette notion de deuil. Et qu'une fois que ça sera réglé, eh bien, je pourrai avoir mieux confiance en moi.
Mais peut-on vraiment avoir toujours confiance en soi dans tous les sujets, dans tous les domaines ? C'est pas possible, on est bien d'accord.
On est d'accord. Donc l'idée de ce week-end, c'est de cibler sur les domaines sur lesquels je suis moins à l'aise, et donc je vais tenter de les gommer, et quelles solutions je pourrais avoir. Et puis surtout, de mieux cerner, c'est de la positivité, c'est pas de s'attarder sur ce qui va pas. C'est vraiment de cibler ce qui va bien chez moi.
Aller de l'avant, quoi.
Aller de l'avant, toujours. On voit bien dans la société actuelle, ce qui va très très vite, celui qui va pas de l'avant, même celui qui stagne, il est déjà en retard.
Il recule même, non ? Souvent.
Ah ben oui, parce que la société va tellement vite que celui qui bouge pas un petit peu, qui ne donne pas les moyens de vouloir s'instruire, toujours se former, apprendre de nouvelles choses, acquérir, faire des choses, oser, expérimenter, faire des choses, celui-ci est en difficulté dans la société actuelle, oui.
Est-ce que prendre des risques, c'est prendre de la confiance en soi ?
À ton avis ?
Oui, je dirais oui.
Eh bien, globalement, oui. Alors, si c'est un risque complètement inconsidéré...
Non, mais sans parler de sauter dans le pont sans parachute, ou par exemple, voilà, ça c'est inconsidéré. Voilà.
Se dire, tiens, je vais faire un saut en parachute, mais je ne mets pas le parachute aujourd'hui...
Pour voir si ça fonctionne ou pas.
Là, on parle plus de confiance, hein.
Non, c'est de la folie.
On va employer d'autres termes. Mais en l'occurrence, oui, prendre des risques dans quelque chose, c'est accepter l'idée que je vais me faire confiance à un moment donné.
Et le deuxième week-end, c'est sur une demi-journée où je vais.
C'est cela. Alors, c'est la même chose, mais en approfondi. C'est-à-dire que les gens, en fonction de ce qu'ils auront vécu lors du premier week-end,
du 3 et du 4,
ils se sentent plus à l'aise dans certains domaines, eh bien, on va l'approfondir de façon un peu plus creusée pour faire en sorte que cet outil-là devienne un véritable outil qu'on va pouvoir s'emparer désormais au quotidien pour l'utiliser régulièrement.
L'ennéagramme, par exemple, ou l'arbre de vie ?
Par exemple, l'ennéagramme, l'arbre de vie, tout à fait, en font partie, tout à fait.
Xavier, petit, quelque chose à rajouter avant de te dire au revoir ?
Eh bien non, avec grand plaisir d'accueillir tout le monde. On espère être un nombre suffisant pour passer. Donc il faut un nombre suffisant, hein, sinon on peut pas vivre une dynamique de groupe qui est importante.
15 personnes à peu près, c'est bien ça ?
Comment ?
15 personnes à peu près ?
Ah, ce serait vraiment le... Alors vraiment l'idéal, ce serait 12.
12 hein, personnes.
Vraiment, c'est clair que pour diverses raisons, le chiffre 12 est un chiffre magique pour nous lorsque nous accompagnons des groupes. Mais voilà, en fait, très concrètement, à partir de 8, on pourra monter cet atelier à partir de 8.
Ce groupe de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe, on peut mélanger les genres ?
Oui, on va éviter...
Sans prendre une échelle énorme, bien sûr.
Non, mais pas de souci. Alors n'importe quel âge. On va quand même l'adolescent, oui. Je pense que en dessous 12 ans, c'est un peu plus compliqué pour diverses raisons.
Il faut déjà se connaître pour participer à l'atelier.
Au-dessus de 12 ans, si le jeune est plutôt mature, oui, un ado est en capacité de pouvoir tout à fait prendre du recul sur sa vie, d'analyser un petit peu, et puis de se projeter évidemment sur des choses positives. Oui.
T'attends plutôt des personnes de quel âge ? Si tu aurais eu un âge à nous donner ?
Alors surtout pas d'âge.
Surtout pas d'âge, ouais. Il y a pas de critères.
Non, il y a vraiment pas de critères. Franchement, c'est vraiment une. Par contre, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un inscrit une autre personne pour dire ah tiens, je vais le mettre là parce qu'il en a besoin, je vois pas.
Ça fonctionne pas.
Je vois pas trop l'intérêt parce que c'est vraiment une démarche personnelle et impliquante. Hein. On va s'impliquer. C'est pas un moment où on va être en train de regarder des vidéos, des films et puis rigoler parce que je vais sortir quelques blagues. Ça va demander aux gens de s'impliquer, mais vraiment avec une volonté d'avoir, de trouver des outils personnels pour avancer un peu dans la vie, quoi.
Pour avoir mieux confiance en soi et mieux se connaître, d'ailleurs. C'est en lien.
Exactement.
Tout ça.
Tout à fait. Hein. Ce qui est très lié. Tu as très bien retenu, Roland. Tu as obtenu le premier passage. C'est bon.
Merci beaucoup. Et il faut participer aux deux week-ends ou les personnes peuvent participer à un week-end et pas l'autre ?
Alors les personnes peuvent. Alors le deuxième, c'est obligatoirement d'avoir passé le premier. Hein.
Ça, on est bien d'accord.
Mais alors après, les personnes pourront, si elles le souhaitent, s'arrêter au premier. À titre personnel, je trouve ça dommage parce que le travail ne serait pas fini. Et il y aurait qu'une partie et ça risquerait d'être frustrant. Mais après, en fonction de chaque situation, si les gens disent moi un week-end me suffit ou en tout cas je peux pas le deuxième ou je sais pas quelle raison, on acceptera, on va être souple. Hein. Vraiment l'idéal, c'est les deux week-ends. Il y a pas photo. Hein.
Les week-ends du 3 et du 4 et du 17 et du 18 décembre.
Exactement.
Renseignements complémentaires et inscriptions, c'est au point Info Famille de l'Île-Dieu au 02 28 12 91 22 ou bien par courriel pif@il-dieu.fr. Et une participation vous est demandée pour ces deux week-ends, c'est 10 euros. Xavier Petit, merci beaucoup.
Merci à vous, merci à tout le monde et à bientôt, j'espère, à très bientôt.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas et comme chaque lundi, c'est spécial musique avec en interview un air de famille, le regroupement de deux groupes, les Ogres de Warbach et les Hurlements de Léo. On en parle plus en détail avec Lolo, le chanteur des Hurlements de Léo. À lundi, bon week-end, bye bye.
musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.